VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. En République centrafricaine, les forces vives de la nation exigent du président Faustin Archange Touadéra de la fermeté face aux groupes armés. Il est reproché au leader centrafricain sa politique de main tendue alors que les bandes armées de l'ex-Séléka s'agitent dans le centre du pays. De Bangui, les précisions de notre correspondant Freeman Sipila.
Cet appel à la fermeté lancé par les partis politiques et la société civile intervient au moment où des factions de l'ex-rébellion Séléka se mobilise à Kagabandoro, dans le centre nord du pays. Au cours d'une rencontre du chef de l'État la semaine dernière avec les forces vives de la nation, des voix se sont élevées pour réclamer du président Faustin Archange Touadéra plus de fermeté face aux groupes armés. Jean-Serge Wafio, coordonnateur du CLPS, une plateforme des partis politiques et de la société civile.
Quelqu'un qui a l'habitude de gagner facilement 200 à 500 000 ou à 1 million de francs CFA par jour avec les armes, vous lui parlez de DDR, est-ce qu'il va accepter ? La plupart, ce sont des mercenaires. Qui n'est pas dit dialogue, c'est laisser faire. C'est pour cela qu'on a parlé de fermeté et d'autorité dans l'action du chef de l'État.
Le chef de l'État explique que sa voie est la bonne pour une paix véritable en Centrafrique. Faustin Archange Touadéra demande la patience.
La voie que j'ai choisie, la stratégie mise en œuvre, c'est la bonne. Il n'y a pas autre. Et je le répète. Parce que pour certains, dire fermeté, c'est dire qu'on doit aller faire la guerre, déclarer la guerre.
Alors que la mobilisation des ex-Séléka fait encore débat à Bangui, la population craint une nouvelle escalade. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Cameroun, le village Ediki, dans le sud-ouest, zone anglophone, vidé de ses populations, celles-ci ont fui les violences des hommes armés non identifiés qui ont envahi leur village. C'est dans la localité de Mbanga, à 303 kilomètres de Yaoundé, que ces populations ont trouvé refuge. Sur place, notre correspondant, Emmanuel Jules Ntap.
Ici, les pleurs d'un bébé. Là-bas, le regard inquiet d'une maman. Et plus loin, la mine resserrée d'une femme, la quarantaine sonnée, l'air désespéré. Nous sommes en Mbanga, une ville en zone francophone du Cameroun. Mbanga a vu déferler en 3 jours, par voie ferroviaire, des centaines de ressortissants du village Ekidi, dans la région du sud-ouest en zone anglophone. Tous ont fui des tirs d'armes à feu, entendus dans leur village.
J'ai juste entendu des coups de feu et mon mari m'a demandé de prendre les enfants pour partir. C'est chacun qui prenait fuite. Certains ont emprunté le train et d'autres, jusqu'à l'heure actuelle, sont restés en brousse. J'ai vu une foule de population qui venait vers moi, provenant du carrefour. J'ai aussi couru pour prendre les enfants et partir.
C'est dans une vaste salle, la maison du parti, que les déplacés du village Ediki ont été momentanément recasés. Et des moyens de fortune ont été mis à leur disposition pour le séjour dans la ville. Léopold Ndjeme, président départemental de la Croix-Rouge du Mungo.
Nous avons veillé à ce que l'approvisionnement en eau soit la plus adéquate possible. Et puis les repas qui leur ont été servis, que ce soit les repas chauds ou les repas froids, c'était sous l'œil vigilant des personnes bien habilitées, ce qui a permis de les maintenir à cet état de santé, bien qu'il y ait quelques bobos que nous avons encore au niveau de l'hôpital de district.
On compte 2 nouveaux-nés. Parmi les déplacés du village Ediki, les mamans arrivées en état de choc ont été admises à l'hôpital du district de Mbanga. Sur les sites d'accueil, le sort des déplacés a fait naître un élan de solidarité nationale. Les dons de toute nature proviennent de toutes parts. Ce jour, par exemple, la fondation d'un ancien magistrat anglophone est venue remettre des denrées alimentaires. Aya Abiné, président de la fondation Aya Paul.
La fondation Aya reviendra dans les prochains jours avec plus d'aide, tout en espérant que la crise va prendre fin d'ici peu pour que les ressortissants de la Mémé au sud-ouest rentrent chez eux.
Le pire a été évité. La gestion de ces déplacés est désormais sous contrôle, rassure les autorités de la ville.
De sources officielles, environ 80 personnes arrivées ici à la maison de parti de Mbanga séjourneront encore ici pour quelques temps. Le retour dans leur lieu de résidence respectif n'est pas encore pour demain. Emmanuel Jules Ntap pour VOA Afrique, Mbanga.
Human Rights Watch craint une crise humanitaire imminente dans le nord du Sinaï, où l'armée égyptienne mène une vaste opération contre le groupe État islamique. Sinaï 2018 s'est accompagné d'une diminution marquée des réserves de nourriture, de médicaments, de gaz, de cuisson et d'autres biens commerciaux essentiels. déplore l'ONG américaine qui se fonde sur des témoignages de journalistes locaux et de résidents, des articles de presse et des images d'amateurs. Human Rights Watch évoque également des restrictions dans la vente ou l'utilisation d'essence, les services de télécommunication, voire l'accès à l'eau et l'électricité dans certaines zones. À Madagascar, soldats et policiers ont repris aujourd'hui position autour de la place du 13 mai au centre de la capitale Antananarivo pour interdire un rassemblement prévu par l'opposition à la mémoire des victimes des affrontements meurtriers du week-end. Samedi, une manifestation de l'opposition sur cette place, interdite par les autorités, a dégénéré en violents affrontements entre un millier de personnes et les forces de l'ordre. Selon un bilan provisoire de sources hospitalières, ces violences ont fait 2 morts et 16 blessés dans les rangs des manifestants. Au Zimbabwe, le syndicat des infirmiers a annoncé la reprise du travail aujourd'hui pour des milliers de ses membres. Elles avaient été licenciées la semaine dernière pour avoir refusé de mettre fin à leur mouvement de grève. Abdourahman Dia.
Quelques 15 000 infirmières dans les hôpitaux publics s'étaient mises en grève lundi dernier afin d'obtenir de meilleures conditions salariales et de travail. Elles entendaient aussi protester contre le sous-équipement et le manque de médicaments. Le lendemain, le vice-président Constantino Chiwenga avait annoncé leur licenciement, les accusant d'avoir des motivations politiques. Malgré cette mesure musclée du gouvernement, l'Association des infirmières du Zimbabwe avait décidé de maintenir son mouvement de grève. Mais ce week-end, l'association est revenue à de meilleurs sentiments, affirmant dans un communiqué que pour préparer la réouverture de négociations et assurer la protection des travailleurs, nous avons décidé d'arrêter notre mouvement social. Le syndicat a également introduit un recours en justice contre le licenciement de ses membres. L'annonce de cette reprise de travail intervient alors que le gouvernement a commencé à recruter des infirmières à la retraite et d'autres qui sont au chômage pour remplacer celles qui ont été licenciées.
Ici aux États-Unis, le président français attendu à Washington pour une visite d'État. Le chef de l'État français et son hôte, le président Donald Trump, vont discuter de plusieurs sujets de discorde, en priorité l'accord sur le nucléaire iranien. M. Macron a énuméré dimanche sur Fox News ses arguments pour convaincre le président américain dans les dossiers qui les opposent, comme l'Iran, la Syrie, le conflit commercial entre Bruxelles et Washington. Cette visite d'État, la première d'un dirigeant étranger sous l'ère Trump, commence aujourd'hui. Ce soir même, les deux couples dînent à Mount Vernon, l'ancienne résidence de George Washington, au sud de la capitale fédérale américaine. Les discussions diplomatiques elles-mêmes commenceront demain mardi avec des entretiens à la Maison-Blanche, puis un dîner d'État. Et mercredi, M. Macron va s'exprimer devant les membres du Congrès avant de rencontrer des étudiants de l'université George Washington. À Washington, il est 7h08.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Et la police américaine était à la recherche dimanche soir d'un homme de 29 ans soupçonné d'avoir tué au fusil semi-automatique 4 personnes et d'en avoir blessé 2 autres dans un restaurant près de Nashville avant d'être désarmé par un client et de s'enfuir à moitié nu. Le suspect, identifié comme Travis Rinking, souffrirait de troubles mentaux selon la police du Tennessee. Le djihadiste français Salah Abdeslam et son complice tunisien Soufiane Ayari ont été condamnés aujourd'hui à Bruxelles à 20 ans de prison pour leur participation à une fusillade avec des policiers survenus le 15 mars 2016 dans la capitale belge. Le tribunal correctionnel de Bruxelles les a reconnus coupables de tentatives d'assassinat à caractère terroriste. Leur ancrage dans le radicalisme ne fait aucun doute, a notamment relevé le jugement. 4 policiers avaient été blessés lors d'une perquisition qui avait mal tourné ce jour-là dans la commune bruxelloise de Forest. Et puis, colère ce lundi en Afghanistan, au lendemain d'un attentat suicide revendiqué par l'État islamique. Un kamikaze s'est fait exploser dimanche matin au milieu d'une foule dense à l'entrée d'un centre d'enregistrement électoral où les électeurs récupéraient leurs pièces d'identité avant de s'inscrire en vue des législatives prévues au mois d'octobre. Le bilan s'établissait dimanche soir à 57 morts et 119 blessés, très majoritairement membres de la minorité chiite Hazara, régulièrement ciblés par les extrémistes sunnites de l'État islamique, selon le ministère de la Santé. Les funérailles ont démarré quelques heures après l'attaque et d'autres enterrements devaient se tenir aujourd'hui. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Ce sera en compagnie de Henri Francis. Bon après-midi à tous et merci pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.